Amis de Radio Occitanie de la poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin, Christian Saint-Paul. Ce soir, nous allons avoir une pensée particulière pour Antoine Emmaz. Je vais consacrer une bonne partie de cette émission à vous faire entendre cette voix, qui est une des grandes voix de la poésie contemporaine. Et en préalable, je voudrais vous signaler deux publications qui sont absolument passionnantes. La première, je n'avais déjà parlé. Il s'agit d'un numéro de Vocatif, qui est une revue. Vocatif, c'est financièrement est en problème. Et pour que l'on puisse continuer à avoir le plaisir de lire cette revue, il nous est demandé de bien vouloir verser la somme de 12 euros plus 3 euros de frais de port par chèque au nom de Monique Martha, 14 rue du Colonel Drian, Le Jalna, A2, 06 100. 06 100, à Nice. Alors, de quoi s'agit-il? Cette revue, donc Vocatif, c'est une association loi 1901, hein, 14 rue du Colonel Drian, comme j'ai dit, Le Jalna A2, 06 100, Nice, a publié un numéro qui est très intéressant sur le poète dans la cité et la poésie allemande. Donc, ce numéro vaut 12 euros. Je vous demande de le commander parce que vraiment, ça permet à cette équipe de continuer son travail, qui est un travail remarquable. Et ça vous permet d'avoir d'abord une excellente idée de ce que pensent les poètes, du poète dans la cité, puisqu'il y a là Georges Amar, Michel Capmal, Gilbert Casula, Bruno Genest, Daniel Giraud, Claude Haza, Alain Hélissin, Monique Martha, David Nadeau, Jean-Luc Pouliquen, Arnaud Villani, qui répondent à cette question, donc le poète dans la cité. Et puis il y a également un petit panorama de la poésie allemande, avec une introduction de Maryse Jacob, et une traduction donc de Maryse Jacob et d'Arnaud Villani, et des collages de Léo Lita. Voilà. Le tout est tout à fait passionnant. Je vais vous lire des extraits, ce sont des entretiens, donc c'est toujours un peu difficile de lire ces entretiens. Mais par exemple, rencontre avec Jean-Luc Pouliquen, poète, écrivain et blogueur, hein, je vous invite à voir sur Internet le blog de Jean-Luc Pouliquen. Vous écrivez son nom sur un moteur de recherche et vous trouverez son blog. Jean-Luc Pouliquen, qui répond donc à la directrice de Vocatif, Monique Martha, qui lui demande, donc la revue Vocatif, dit-elle, existait depuis un an et avec Daniel Biga. Nous parcourions la France pour des rendez-vous d'amitié avec d'autres poètes, participer à d'autres festivals. Je me souviens en particulier du festival de poésie de Rodez, dans l'Aveyron. Nous aussi, nous en souvenons, et ô combien, avec la belle figure de Jean Digault et de son épouse Simone. Mais à cette époque, je me demande si le terme de festival était utilisé. J'ai un doute, oui, on appelait ça les journées. Les journées. Nous sommes toujours là. Moi, avec entre autres la revue Vocatif, alors elle s'adresse à Jean-Luc Pouliquen, et elle lui demande, pourrais-tu m'en dire un peu plus sur ce qu'a été ta vie en poésie depuis ces années-là? C'est intéressant de savoir ce qu'il répond, Jean-Luc Pouliquen. Bonjour Monique, oui, tu as raison, le terme de festival n'était pas utilisé à l'époque. À Rodez, il s'agissait de, voilà, c'est vrai, journée de poésie. À la Garde, la rencontre avait été organisée par César Gattegno et Gilbert Lion du Théâtre du Rocher de manière ponctuelle. Les Niçois étaient venus en force, avec toi en plus, de Daniel Biga. Il y avait Jacques Lepage, Cathy Rémy, Marilyn Desbiol, Christian Artaud. Du côté des Varois, je me souviens de Michel Flayeux et de Marcel Migosi. J'étais venu pour ma part avec Jean Bouillet, que j'accompagnais, Jean Bouillet, qui est l'auteur de cette anthologie sur l'école de Rochefort. Il me permit de faire la connaissance d'Edmond Humeau, l'inoubliable Edmond Humeau, qu'il avait jadis édité au cahier de Rochefort. C'est sur le chemin du retour que je proposais à Jean Bouillet de réaliser avec lui un livre d'entretien qui devait paraître au Des Bleus de Louis Dubost, hein, en 1988, avec pour titre Fortune du poète. Ainsi commençait mon parcours en poésie. Il s'est tissé de nombreuses amitiés, en plus de ma propre création, d'activités qui la prolongent comme la critique littéraire, l'édition, l'organisation de rencontres, l'animation d'ateliers d'écriture pour enfants et d'adultes, la tenue d'un blog. Voilà, Jean-Luc Pouliquen, donc poète, mais également avec toute une activité militante en définitive de la poésie à côté, hein, critique, édition, rencontres, animation d'écriture, ateliers d'écriture. Et ce blog, voilà, qu'est-ce qu'il dit encore Charles Pouliquen. Alors, on parle de la revue, bien sûr, et il dit qu'il n'a pas vu Vocatif dans la liste des revues qui sont généralement citées, et cela, cette revue ne l'a pas empêché de jouer pleinement sa participation dans le concert poétique et de continuer à la jouer. Quand tant d'autres revues ont disparu, cela montre les limites d'une politique culturelle. Elle va en soutenir certains et pas d'autres. Voilà, il passe quand même le doigt toujours sur ce qui fait mal, Jean-Luc Pouliquen, avec une honnêteté qui fait vraiment bien plaisir. Et pas d'autres qui le méritent tout autant, créant ainsi une ligne de démarcation entre ceux qui sont officialisés et les autres. Voilà. Et si cela n'a pas été d'incidence sur la marche profonde de la poésie, au fond, peu importe, mais si la distorsion est trop grande entre une nomenclature fortement subventionnée et une authentique communauté poétique devenue invisible à force d'être marginalisée, cela devient problématique. Voilà. Il pose le problème, qui est un problème qui a toujours existé, hein, depuis la fin des années 60, occupe un petit peu de poésie et de milieu poésie. C'est toujours ça. Il y a ceux qui dévorent. Le terme n'est pas impropre. Ceux qui dévorent les subventions. Je ne ferai pas de polémique là-dessus, mais bon. Et puis, bien entendu, comme les subventions sont dévorées par très peu, même souvent on les compte même pas sur le doigt de la main. Ben il reste plus rien. Et donc, il y a toute une marginalité d'animation, de poésie, de publication, etc., qui vont absolument rester à un niveau confidentiel. Heureusement, ça finit quand même par remonter à un moment donné ou à un autre, mais il pose le problème. C'est un problème, oui, c'est un problème qui est beaucoup plus général, c'est-à-dire la poésie ne s'inscrit pas dans une économie de marché normal, ou quand elle s'inscrit dans l'économie de marché, c'est que soit le poète est un poète exceptionnel et donc généralement mort, ou bien c'est que ce poète-là, par ce jeu justement des subventions, des jeux qui sont des jeux politiques, hein, il faut dire les choses comme elles sont, est arrivé, disons, au sommet des possibilités de diffusion, d'animation, de visibilité des médias. Les médias, bien sûr, ne voient jamais que la partie au-dessus de l'océan, de l'iceberg. Ils n'ont jamais, jamais, ils n'ont pas le temps. Et puis, ce n'est pas leur démarche. Voilà, donc Jean-Luc Pouliquen parle de ça. Il en avait parlé déjà dans un autre article. J'espère que nous aurons le plaisir de pouvoir faire une émission avec lui, où je vois quelles sont ses disponibilités. Mais d'ores et déjà, je voulais vous parler de ce livre Vocatif. Donc je vous demande de vous procurer parce que ça va aider. Et ensuite, j'avoue que. Et puis la poésie allemande, hein, c'est intéressant aussi de savoir ce qu'est la poésie contemporaine allemande. Voilà, et puis on retrouve Jean-Luc Pouliquen également dans une publication tout aussi passionnante, décidément, et qui a été apparemment publiée un petit peu par Amazon, je suppose. Cette publication s'appelle Conversation transatlantique autour de l'art et de la poésie, avec Beth Gersh-Nessick, et Jean-Luc Pouliquen. Alors, de quoi s'agit-il? Bête, Bête, Gers, Nezik, c'est une historienne et une critique d'art new-yorkaise. Et Jean-Luc Pouliquen est un poète et critique et littéraire, donc vivant dans le sud de la France, ailleurs, et très exactement. Il partage une même ferveur pour André Salmon, qui fut l'ami intime de Guillaume Apollinaire et de Pablo Picasso. Depuis les deux rives de l'océan Atlantique, ils vont se souvenir de ce début du XXe siècle où il participa en poète et critique d'art à l'aventure du cubisme. Portés par la conversation, tous les deux vont être amenés à cheminer jusqu'aux créations les plus contemporaines. Dans l'intervalle, ils se seront interrogés sur la place actuelle de la poésie, de l'art en Europe, comme aux États-Unis, sur les nouveaux moyens de les diffuser, de les faire passer d'une culture à l'autre. C'est sur le constat d'un art mondialisé, envisagé comme appel à faire le bien, comme ce fut le cas dans le passé, qu'ils termineront leur échange. Voilà. Donc la poésie et l'art, cet art qui est maintenant, et c'est inexorable, c'est un art mondialisé, hein, doit être un art qui doit faire le bien, faire le bien. Voilà, je vais lire un petit extrait. Donc, alors là aussi, c'est toujours un entretien, hein. Entretien entre Betz Gers-Nessy et Jean-Luc Pouliguen. Je vais prendre un petit extrait pour vous lire ça, de Faire vivre la poésie. Betz demande la chose suivante: la France propose-t-elle des programmes spécifiques de l'écriture dans ses universités à l'intention des jeunes poètes? Alors elle dit que ici, chez elle, donc aux États-Unis, nous avons des programmes spéciaux appelés Master des Beaux-Arts en écriture. Master des Beaux-Arts en écriture aux États-Unis. Alors voici ce que répond Jean-Luc Pouliquen. C'est encore assez rare dans l'université française. Il existe pourtant un master de création littéraire que l'on peut suivre à Paris 8, héritière de l'université de Vincennes, créée juste après les événements de mai 68 pour contribuer à un profond renouveau pédagogique, encore à l'université de Lyon, de Toulouse et de Cergy-Pontoise, enfin à l'École supérieure d'art et de design du Havre. Il semble que le mouvement soit lancé, mais cela n'exclut pas la présence de poètes dans d'autres territoires de l'université, loin de là. Il le dit un peu plus loin, pour rester dans le registre de la création poétique, pourquoi celle-ci serait-elle uniquement réservée à des étudiants inscrits dans des cursus qui lui sont expressément dédiés? Tout étudiant, quel que soit son parcours, peut manifester un intérêt pour la poésie et prendre plaisir à s'initier à son écriture. Le champ d'intervention qui s'ouvre au poète dans l'université est alors très vaste. Il peut, dans tous les cursus, y animer des ateliers d'écriture poétique. J'ai par exemple été amené à intervenir dans des départements de techniques commerciales, de génie mécanique, ainsi que dans une école d'ingénieurs. Alors, ça, je crois que ça va se généraliser, hein, ça va. Là, il fait mouche, parce que j'étais dernièrement avec Monsieur Desmoulins, qui est mainteneur de l'Académie des Jeux Floraux, et qui connaît bien les grandes écoles, en particulier les grandes écoles d'ingénieurs de Toulouse, et qui disait que il faudrait que dans ces programmes d'ingénieurs, il y ait une place. Et une place importante, peut-être aussi à l'enseignement et peut-être de l'écriture, en tout cas de la poésie contemporaine, et qu'il a cette volonté. Et nous devons voir d'ailleurs comment nous pouvons peut-être intervenir ici à Toulouse, dans ces écoles. Il y a déjà Yves Charnay, le poète Yves Charnay, qui est, lui, à SUP Aéro, hein, je crois, et qui également donne des cours dans tout ce qui est le domaine de la culture, bien sûr, et de la poésie, puisque il est un des grands spécialistes, par exemple, de Baudelaire. Voilà. Alors, je rappelle le titre de cet ouvrage, Conversation transatlantique autour de l'art et de la poésie. Bête, Gers, Nessic, Gers, trait d'union, Nessic, Jean-Luc Pouliquen. Il faut le commander par Internet, je pense, sous Amazon, mais bon, le mieux, c'est d'aller sur Internet et de taper ce titre, Conversation transatlantique autour de l'art et de la poésie. Voilà. J'espère que nous aurons bientôt l'occasion d'avoir Jean-Luc Pouliquen avec nous pour parler un peu de l'ensemble des problèmes qui sont passionnément évoqués dans ces deux publications. Voilà, je voulais donc, dernière publication quand même très intéressante aussi, il s'agit d'une réédition. Alors c'est toujours intéressant les rééditions parce que d'abord on a un petit peu de recul et puis elles sont toujours augmentées. Il y a toujours c'est toujours une version généralement qui est augmentée de quelque chose, qui est revue, corrigée, augmentée. Donc c'est encore mieux que l'édition précédente. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un livre de Jacques Lacarrière qui a été réédité avec bonheur par l'éditeur Le Passeur. Le Passeur, c'est un petit livre en poche qui ne coûte que 8,90 €, qui est très agréable et qui s'appelle Ne lâchons pas la proie du soleil pour l'ombre des écrans de Jacques Lacarrière. Alors Jacques Lacarrière, il est mort en 2005, et il était né en 1925. Il est écrivain, poète, hein, essayiste et helléniste, alors de renommée mondiale, hein, Jacques Lacarrière, puisqu'il est l'auteur, entre autres, de L'été grec, Les hommes ivres de Dieu, La poussière du monde et Chemin faisant. Jacques Lacarrière a reçu le Grand Prix de littérature de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Donc, dans ce livre, de quoi s'agit-il? Il y a d'abord deux critiques du Figaro Magazine et de Utreya. Le Figaro Magazine dit, à propos de cet ouvrage, Ne lâchons pas la proie du soleil pour l'ombre des écrans, il dit dans ses chroniques, ce sont des chroniques, hein, l'enchanteur transforme le plomb en or. Et Utreya disait, autant de petits joyaux, drôles et poétiques, et presque entre guillemets, toujours métaphysiques. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'aurait pensé la Bruyère du téléphone portable? Comment Rimbaud, Nerval ou Baudelaire auraient décrit les raffineries qui jalonnent nos autoroutes? Familier de la Grèce et de l'Orient, Jacques Lacarrière a poursuivi son itinérance dans notre Occident contemporain en portant un regard singulier sur les innovations qui ont envahi notre quotidien. Avec finesse et humour, il révèle la beauté cachée des lieux ou des objets a priori les moins poétiques, les supermarchés, les aéroports, les smartphones, etc., pour peu que l'on change son regard. Ainsi en est-il de ces grues gigantesques, emmanchées d'un long cou, qui n'ont rien à envier aux animaux des fables de notre enfance. Cet inventaire poétique réenchante notre monde moderne, saturé d'images virtuelles. L'infini est en nous, conclut Jacques Lacarrière. Avec l'aide des mythes et symboles qui peuplent notre imaginaire, nous pouvons aborder allègrement les apparentes incongruités de la modernité. Alors, ça a été écrit il y a déjà quelques années, mais ça n'a rien perdu, évidemment, et je crois que maintenant, ce qu'il dit, c'est tout simplement amplifié. C'est-à-dire que le regard qu'il avait était un regard un peu de pionnier, et maintenant, il aurait encore plus le regard aiguisé sur ce dont il parle dans toutes ces petites chroniques. Alors, c'est un livre très agréable parce que, comme ce sont des chroniques, il y a 3 ou 4 pages. Donc, on peut lire le soir 3 ou 4 pages. Le lendemain, c'est vraiment, on n'est pas obligé de lire ça d'un seul trait. Et on ne perd pas, bien entendu, le fil des choses puisque chaque chronique est tout à fait indépendante. Voilà, je vais peut-être vous lire la chronique sur ce qui nous concerne ici, c'est-à-dire la radio. La radio, hein, ça s'appelle Mégahertz. Radio Occitanie, par exemple, est sur 98,3 MHz dans la région de Toulouse et sur d'autres fréquences dans le reste de l'Occitanie. Alors, voici ce qu'il dit. Jacques Lacarrière. Magie des voix captées, des voix captives. Magie des ondes capturées, des réceptions fantômes au cœur des récepteurs. On tourne un bouton, quelqu'un parle, on le tourne à niveau, il se tait. Depuis que la radio a remplacé la TSF et que les transistors ont succédé aux récepteurs super-hétérodynes et aux postes à galène, la magie a disparu pour devenir banalité. Qui s'étonne aujourd'hui? Qui s'extasie? Qui s'émerveille? Ou qui s'effraie? Qu'une voix inconnue s'introduise la nuit jusque dans votre chambre. Une voix inconnue, mais docile, soumise à nos volontés, intruse. Vous pouvez la bannir sur le champ, complice, vous la gardez aussi longtemps que vous voulez. Dans ce pouvoir d'évoquer, convoquer, révoquer, tour à tour les mille voix du monde, ont résidé longtemps l'attrait et le mystère de la radio. Mais ils ont fini eux-mêmes par s'émousser, au point qu'aujourd'hui ces voix, ces musiques, ces cris, ces appels, ces rires, ces soupirs radiophoniques font partie de nos sons et même de nos bruits quotidiens. La fée sonore est devenue un fond sonore. Je n'ai pas connu le temps des postes à galène, mais bien connu celui des récepteurs super-hétérédonines dans lesquels les oscillations de haute fréquence sont combinées avec celles d'un oscillateur local pour obtenir des oscillations de moyenne fréquence. Notre poste était un engin massif en bois verni avec un haut-parleur orné de dessins modernes style qui trônait sur un meuble spécial du salon. Mon père l'écoutait quasi religieusement deux fois par jour à l'heure des nouvelles. On ne disait pas encore information. Et lui seul avait le droit d'en approcher et d'en manœuvrer les boutons. C'est pourquoi j'attendais la nuit pour écouter en cachette les postes étrangers dans un noir presque total, juste percé par la lueur du cadran et celle du trèfle cathodique, œil magique dont les paupières vertes s'entrouvaient ou se refermaient selon que l'on s'éloignait ou que l'on se rapprochait de la station voulue. Mon plus grand plaisir était de parcourir la gamme des ondes courtes pour essayer d'identifier les langues étrangères. J'ai passé des nuits à l'écoute de ces voix cosmopolites, souvent faibles, voire agonisantes, qui me parvenaient de stations aux noms aussi magiques qu'Alexandrie, Hilversum, Skocicht, Beromünster, Trottwitch, Motala, Zizen et Kallenberg. Elles étaient comme les voix sacrées, les voix liturgiques de la nuit et les consonances étranges de beaucoup d'entre elles ne faisaient qu'augmenter le mystère. Il est vrai qu'on arrivait à deviner pas mal de choses au ton du speaker ou de la speakerine neutre, appliqué pour les nouvelles, passionné, véhément, parfois même agressif pour les émissions de propagande. De nombreux parasites gênaient ces écoutes nocturnes, surtout lorsque les voix venaient de loin, donnant le sentiment que pour parvenir jusqu'à nous, elles avaient dû surmonter mille obstacles, distances, orages, forêts, océans, brouillages, interceptions de toute nature, si bien qu'elles me semblaient des voix miraculées, vibrations, brisements, craquements, parcourir les ondes telles des frissons de fièvre imprévus, comme si l'espace, soudain, se déchirait ou explosait, faisant se dilater l'œil cathodique comme celui d'un cyclope en transe. Lorsque vaincu par le sommeil, je me résignais à aller dormir. Je prenais bien soin de remettre l'aiguille sur le seul poste qu'alors nous écoutions pour que mon père ne sache rien de ses voyages nocturnes au pays des ondines et des sirènes radiophoniques. Je remettais soigneusement l'aiguille sur le poste parisien auquel nous demeurions rivés comme un bateau toujours à l'ancre. Mais déjà, en ces années de l'avant-guerre, le rêve cédait la place à la routine. La sirène à la speakerine, l'évasion prodigieuse à la propagande insidieuse. Déjà venait le temps où la TSF allait s'appeler la radio, les nouvelles devenir des informations, la fée sonore un fond sonore si familier et qu'il allait partager nos jours à notre insu. Si familier et si peu mystérieux, désormais, qu'au lieu de nous entraîner au pays des fées et des fantômes, il nous rappelait chaque instant le présent et l'actualité. L'actualité et les actualités furent les grandes vedettes de l'avant-guerre à la radio et au cinéma. Dans ce dernier cas, on parle du cinéma là, on assistait avec une semaine de retard à la reproduction, à la répétition des événements marquants de la semaine précédente. À la radio, l'actualité datait de la veille ou de l'avant-veille. Ainsi, le présent rattrapait-il impitoyablement nos jours et nos heures au point de se confondre avec eux, avec elles? Tourner le bouton du poste, ce n'était plus capter les fantômes et les faits, mais la voix du présent et de sa sœur actualité. Voix captée, mais non plus captive. Voix qui se mêleront, s'uniront désormais pour devenir, demeurer aujourd'hui encore l'oracle quotidien qu'on nomme information. Voilà, on n'a pas pris donc une ride. Et pour ceux, par exemple, de ma génération, hein, qui ont connu ce temps sacré où le père allait, à 20 h, allait allumer le poste de radio et où on mangeait en silence parce qu'il ne fallait pas parler pendant les nouvelles. Claude et moi, nous avons connu ça. Nous avons connu ça. Bon, maintenant, ben, les jeunes, d'abord, je pense qu'ils sont sur leur écran et ils sont, alors là, vous voyez, la carrière qui disait que le fait de ne pas avoir de recul sur le présent, eh bien, on va vivre dans un monde un peu schizophrénique, fatalement, il n'y a aucun recul sur les événements. Et puis, l'un en chasse l'autre immédiatement. Regardez, on attendait un grand débat, on a eu des actualités sur un désastre national. Demain, dans 3 jours, il y aura autre chose. Mais ceci se fait sans recul. On est dans l'immédiateté de l'information et la radio, les radios maintenant, l'actualité est en jet continu, c'est à l'instant T. Même on se demande même s'ils vont pas un jour pouvoir inventer, comment ils vont pouvoir nous donner l'actualité avant même qu'elle ne se réalise. Bon. J'exagère à peine. Voilà, donc c'est à lire parce que c'est très salutaire de lire ça. Ne lâchons pas la proie du soleil pour l'ombre des écrans. C'est ce que nous essayons de faire, nous ici, en définitive, en étant un peu détachés de l'actualité, y compris d'ailleurs de l'actualité des publications, parce qu'on ne veut pas non plus avoir cette espèce de servitude, d'être tout de suite, de donner le dernier livre paru, etc. Non, nous, on veut avoir un peu de recul et on veut vous parler à une conversation transatlantique autour de l'art et de la poésie. C'est absolument excellentissime. Ou bien Le poète dans la cité de Vocatif, c'est très bon, c'est absolument à lire. Ou ce que je vais lire maintenant d'Antoine Émaze, de peu, c'est intemporel. Et voilà. Et la radio doit aussi continuer cet office-là d'être aussi une fée sonore et non pas un fond sonore. Voilà, dans les instants qui nous restent, oui, je vais choisir de vous lire des extraits de De Peu de Antoine Émaze. C'est une anthologie qui rassemble plusieurs recueils. Par exemple, il y a Vent, Voix. Je ne peur dans la touffure de l'air, os, etc., etc. Voilà. On va entendre en continu. Pas besoin de dire plus d'autres choses sur Antoine Émaze. Il faut le faire écouter, faire écouter cette voix d'Antoine Émaze. On va lire Peur, par exemple. Vague longue, on ne sait d'où elle monte de mémoire, brusque. Masse tombée sur la carlingue des côtes, poids qui broie. Tête tenue hors de l'eau, mais tout le corps, comme bloc, se crispe et tient sur un seul nerf. Peur. Un souffle court de bête folle, on ne voit pas en face quoi qui peut être rien. Étouffe. Le jour a éclaté, laissant le temps en plan, on reste dans ce vide, blanc. On attend, pas sans peine. On tire l'air jusqu'au soir. Voilà, vous voyez combien le poète nous replonge dans la réalité. Et on n'est plus dans cette fuite en avant de l'actualité, de ce temps qui passe sans qu'on puisse le saisir. Le poète, il le saisit, le temps, justement dans ce qu'il a d'insaisissable, je vous dirais. Hein. Le jour a éclaté, laissant le temps en plan. On reste dans ce vide. On dit ça, Antoine Émaz. Blanc, on attend, pas sans peine, on tire l'air jusqu'au soir. Savoir tirer l'air jusqu'au soir, savoir de temps en temps s'asseoir quelque part, regarder, flâner. Qui d'entre nous maintenant peut dire « j'ai pu flâner aujourd'hui » Qui ? Dans la touffeur de l'air, des lobes, et la clarté déjà dit qu'il n'y aura pas de cesse. On prend l'heure et l'air, on sort, pieds nus, sur les pierres fraîches de leur reste de nuit. L'éveil, le jardin ouvert avant que l'été ne lamine, tout est fort. Plus tard, rien. L'été juste. Le soleil posé, stable, écrase le jardin et les heures. Le corps aussi pris sous la presse du jour. L'air ouate, on respire lourd. La chaleur comme mur mou. Au-delà du volet, on entre dans dehors. Face au front de l'été, aucun bruit dans le jardin. Tout s'est tapis. Sol comme rasé de feu, presque plus rien. Sous l'épaisseur du jour, on attend. Lentement, le jour brûle à petit feu, l'air s'en va. Au ras du sol, ça devient flou et flotte, une odeur d'herbe sèche et de pierre chaude. Sur la route molle, personne ne vient. Ni ne part. Avec le soir, un peu de souffle et la lumière moindre rebondit dans les feuilles. Jardin safrané, pollen, on respire. K.O., c'est un autre. Petit recueil, chaos, tour. Alors, ça a été écrit le 13 septembre de 2001. Je pense que la date a son importance, vous allez voir pourquoi. Choc. Une poussière brusque de fer et d'homme. Une sorte de neige sale. Tâchez de voir au-delà de l'image, reculez pour voir d'où elle vient, effort ici, effort, l'image colle. Voilà, sur les tours jumelles qui ont été saccagées en septembre 2001, voilà. Ce que dit le poète dans ces quelques mots tour. Voyez à quel point on arrive à une concentration, une intensité absolument bouleversante. Un jour, deux, un peu de prise revient quand, même si les drapeaux bernent, les morts encore dessous. Recul. Tout de même distance. Bout de pensée par à-coup. L'eau, jour. Le jour au monde, tel quel, pas vivable pour bien trop d'hommes. On s'éloigne des images, déjà. On passe sur un autre registre, même ici, on reparle de glycine, de tout, ce qui se mêle dans le temps, vite, mais comme un flou dessous bien plus long à saisir, dead or alive, bêtise. Sur bêtise, noce de pensée, on est trop court dans l'histoire. Cendre non balayée, la bourse repart sans baisser trop, le pays fait bloc. Le monde fait bloc. Les morts, poussière. Dans l'acier et la cendre, pas de sang. Rien d'écrit dans la ruine à voir. Rien. C'est simple, on repart. Dans le même sens, bien mal, l'un, l'autre. On change seul le décor. Bref. Bêtise creusée. Voilà, donc sur l'attentat de 2001, comment peut s'exprimer un grand poète français? Un afflux sans repos ni distance, une prise d'œil invisible. Mais une fois pris, l'œil noyé dans le fatras réel, d'où ne monte aucun chant. Le besoin de saisir insiste, on s'englue dans le voir brusque, œil blette. Il n'y a pas de monde, mais moins d'espoir. Et puis, cette année, il y a eu, peu de temps après, chez nous, ici à Toulouse, on croyait même que c'était au départ dans la continuité de ce que avaient subi nos amis new-yorkais. Nous avons eu l'explosion d'AZF. Voici ce qu'il dit sur cette explosion d'AZF. C'est un poème qu'il a écrit le 23 septembre 2001. Rien, ou bien paix aux cendres. Dans le soleil neuf, les marchés baissent, les télés braient. Rien qu'un pesant silence descendre, un peu de temps encore, on ne fera pas remonter assez avant l'image. Peut-être qu'on ne pouvait plus déjà passer outre bêtise, contre bêtise, nous-mêmes devenus bêtes. Et voilà maintenant pour AZF. Ce soir, on va au cinéma. Le jour à jour résiste au pire, il grignote. Mon CES cesse le 28 novembre. Présent sans épaisseur et plein. La vie continue. On se dégage. L'œil passe par Toulouse, AZF. On s'éloigne. L'image n'est toujours pas comprise, simplement couverte par d'autres, l'emballé d'essuie-glace, asthme, histoire, 20 heures. Tambour. Ça a été écrit en 2002. Lumière grise de mémoire, toujours la même. Pore close comme paupière sur le ralenti de vivre. Postier irlandais, 20 ans, tué. Israélien, palestinien, algérien, mort. lumière grise du jour, visage de ride, tant écrit à force, mais peau flasque, dans ses plis, presque masque. Tambour, encore cœur sourd, pulsant lent, le sang jusqu'à l'eau verte, en ce pays de pluie, tam-tam perdu, sous le tohu-bohu dehors, à contre-temps et grave, basse continue, sous le temps la bêtise bave, basse immense encore des peaux qui vibrent, vivent et tremblent. Antoine Émase, nous allons aller voir un autre recueil de cette anthologie qui s'appelle De peu, publiée chez Tarabuste. Nous allons voir sur la fin. Sur la fin, titre du recueil donc. Elle se détache. Il n'y a plus beaucoup à parler, on triche un peu, on ment. Il n'y a peut-être jamais eu de vraies paroles possibles. Dans ce moment où on ne peut plus rejouer les dés, est-ce un destin qui vient? Tout dépend qui regarde. Elle part encore une fois sur une longue boucle du corps. La dernière, on n'en sait rien. Les autres non plus. Un mur de verre mince, spirale heurtée de temps. Brusquement, vivre, descendre dans un couloir étroit qui tourne jusqu'au rebond possible. On attendra. Elle se détache. Entre les tempes, le très mince fil du regard affolé, muet. Comme aspirée, elle griffe, cherche une rampe, une prise sur le drap pour ne pas glisser. Partir. L'épaule contre la vitre qui sépare jusqu'à ce qu'elle cède. Une poussière de verre et le rien pour dehors. Ça fait peur, on le comprend. On n'a pas d'abri pour autant sous la main. Elle s'en va, on s'éloigne. Elle n'a plus de poids. De fait, elle n'a plus de poids. Non pas rupture, cassure, une lente dérive, fin d'emprise. On arrive au bout, c'est tout. Elle se détache. Cela veut dire on reste seul. Seul, aussi à la fin, on le sait, sur le bout de route abrupte vers nulle part. Perdre peu à peu ce qui permettait d'être parmi d'autres, face à soi, c'est plus dur. Un vouloir qui demeure dans un corps qui ne porte plus. Fin de course. Avec encore l'envie de courir. Dans la maigreur, ce n'est pas le vrai visage qui vient maintenant. Quelqu'un d'autre appelle du fond. Voilà, texte assez terrible, hein? Antoine Émase. Donc, on comprend. Sans oublier, c'est pas à toi de juger. Miettes de mots sur pas mal de temps. Aucun désordre de fin de règne, pas d'écroulement. Tout est déjà colmaté, prévu. On attend. ému par l'humain du corps qui n'en finit pas de finir, mais pitié bornée, mère, le mot ne rejoint pas, le mot est distinct, arbitraire, froid, comme maman. Elle part. C'est peut-être mieux. On n'est pas plus libre. Depuis déjà longtemps, on n'obéissait plus. Demeurait comme une aire de pouvoir avec à l'intérieur le choix entre mentir et taire. Bientôt, à cet étage de tête, il n'y aura que vide ouvert et le reste en mémoire ballast. Voilà, donc sur la mort de la mère. Si tout est interdit, autant partir. On comprend. Mais pas d'avoir interdit, autant avant, régler les comptes, pas maintenant. C'est dans le temps, ça restera ouvert, avec un jour ou l'autre, plus personne pour compter. Sans tenir là, secrétérer, il n'y a rien à raconter, c'est compacté en tête. Valise de linge sale, bien tassé tout ça dans la cave au charbon. Dur de lâcher une telle ligne droite de vie, leste de certitude sans histoire, au pied du mur, même les œillères ne suffisent plus. Faudrait ne pas voir du tout et, d'un bon coup de tête, casser le miroir. Trop dur, à force d'années sans doute. Antoine Emaze, je voudrais finir sur un de ses derniers textes peut-être. Des années durant, on n'a pas vu le temps. Maintenant, le corps dit la fatigue, les os qui craquent, l'usure des nerfs. Bien sûr, on peut demain encore, mais ce qui ne clignote de plus en plus vite signale un épuisement. Ce qui manquait manque. On a peut-être bougé la partie un peu avec les mots, pas la donne. Est-ce vraiment du temps qu'il faudrait encore? Voilà. Je reste sur ce poème que j'ai pris également comme exemple dans mon dernier éditorial que vous trouverez sur notre site lespoètes.site, lespoètes-accent.site. Voilà. Donc je vous invite à lire Antoine Emaze. La plupart des livres d'Antoine Emaze sont publiés aux éditions Tarabuste. Il y a aussi dans la collection de poche Le Point. Vous trouverez là aussi une anthologie d'Antoine Emaze, à lire absolument. Voilà, Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine, Adicias.